Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 20 octobre 2022. En direct de Washington, Idrissa Sebudia. Pour commencer les titres, au Burkina Faso, recrutement exceptionnel de 3000 soldats pour renforcer les rangs de l'armée face aux djihadistes. Au Cameroun, une dizaine de séparatistes tués par l'armée en zone anglophone, selon le ministère de la Défense. Au Tchad, le président décrète un état d'urgence face aux inondations qui affectent le pays depuis plusieurs semaines. L'épidémie d'Ebola en Ouganda a fait depuis septembre jusqu'à 44 morts, selon le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Objectif du président Biden pour stabiliser les prix de l'essence, augmenter la production intérieure de pétrole et continuer de puiser dans les réserves stratégiques américaines. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le Burkina Faso a lancé une campagne de recrutement exceptionnel de 3000 militaires pour renforcer les rangs de son armée dans la lutte contre les djihadistes, selon un communiqué du ministère de la Défense, Yacouba Ouédraogo.
D'après le communiqué du ministère de la Défense, ce recrutement qui se déroule du 25 octobre au 5 décembre concerne uniquement les jeunes garçons nés entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1998. C'est la deuxième fois cette année que l'armée burkinabé organise un tel recrutement. En avril, 3000 militaires dont l'âge n'excédait pas 26 ans ont déjà été recrutés. Cette deuxième campagne de recrutement intervient près de deux semaines après un coup d'État mené le 30 septembre par le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis 2015, les forces armées burkinabées sont souvent endeuillées par des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes. Samedi, au moins 3 soldats et 8 supplétifs de l'armée ont été tués lors d'une attaque dans le nord du Burkina Faso. Le 26 septembre, selon l'état-major, 37 personnes, dont 27 militaires, ont été tués à Gaskindé lors d'une embuscade contre un convoi de ravitaillement qui tentait de rejoindre Djibo, sous blocus djihadiste, dans le nord du pays.
Signalons que le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, auteur du coup d'État du 30 septembre, sera investi demain président de transition. C'est ce qu'a annoncé mercredi le Conseil constitutionnel qui dit prendre acte de la démission du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, auteur lui-même d'un putsch en janvier, et que vient de renverser le capitaine Traoré. Ce dernier a été désigné vendredi président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, par des assises nationales rassemblant les forces vives du pays. Au Cameroun, une dizaine de séparatistes anglophones ont été tués le 8 octobre lors d'une opération de l'armée en zone anglophone, a annoncé hier le ministère de la Défense, Michel Joseph.
Les forces de défense ont conduit une importante opération de ratissage dans la localité de Djotine, près de Koumbo, dans la région du Nord-Ouest, et une dizaine de séparatistes ont été neutralisés par l'armée, d'après le colonel Cyril Atanfak, chargé de communication du ministère de la Défense. Il affirme que durant l'opération, plusieurs otages ont été libérés et 15 armes de guerre saisies. Selon lui, le but de cette offensive était de mettre hors d'état de nuire des disciples du général autoproclamé Nopeli, signifiant « sans pitié », qui semait la terreur et la désolation dans cette localité et ses environs. Nopeli est un redoutable chef séparatiste anglophone connu au Cameroun pour ses multiples attaques contre l'armée. Le communiqué précise que plusieurs soldats camerounais, auteurs d'actes violents sur un combattant séparatiste pendant cette opération, ont été arrêtés et une enquête est ouverte.
Au Tchad, le président Mahamat Déby Itno a décrété hier un état d'urgence pour mieux contenir et gérer les inondations qui touchent le pays depuis plusieurs semaines et ont affecté plus d'un million de personnes. Ces inondations dans le sud et le centre, provoquées par de fortes pluies, ont touché 636 localités dans 18 des 23 provinces du pays, selon M. Déby. Il a ajouté, lors d'une allocution télévisée, que les eaux ont englouti plus de 465 000 hectares de champs et 19 000 têtes de bétail. Les provinces les plus touchées sont le Mayo-Kébi-Est, le Logon occidental, la Tandjilé, le Moyen-Chari et le Mandoul. L'épidémie d'Ebola qui sévit en Ouganda depuis septembre a fait jusqu'à 44 morts, a annoncé hier le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Rosine Munezero.
Il y a 60 cas confirmés, 20 probables d'Ebola, 44 morts et 25 personnes ont guéri, a déclaré M. Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'un point de presse à Genève. Le précédent bilan publié le 5 octobre faisait état de 29 morts. Les autorités ougandaises affirment que les cas sont concentrés dans les districts de Mubende et Kassanda dans le centre du pays et que l'épidémie n'a pas atteint Kampala malgré les tests positifs d'un couple dans la capitale. Ces deux cas augmentent les risques de transmission dans la capitale, a souligné M. Tedros. Le président ougandais Yoweri Museveni a ordonné le 15 octobre le confinement de deux districts et a interdit aux guérisseurs traditionnels de s'occuper de malades. L'Ouganda a connu plusieurs épidémies d'Ebola, dont la dernière en 2019. Il n'existe pour l'heure aucun vaccin contre la souche de ce virus, dite souche soudanaise, qui sévit dans le pays.
Six comtés au Kenya, dont la capitale Nairobi, font face à une épidémie de choléra avec une soixantaine de cas recensés dans le pays selon le ministère de la Santé. Et au Cameroun, 3 personnes sont mortes du choléra et 39 ont été contaminées dans le camp de réfugiés de Minawao, dans la région de l'extrême nord, a annoncé hier l'ONU, qui a fait part de sa préoccupation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En sursis après 6 semaines à Downing Street, la première ministre britannique Liz Truss est entrée mercredi dans une nouvelle zone de turbulence avec la démission surprise de sa ministre de l'Intérieur pour une utilisation indue d'une adresse électronique personnelle. Le point avec Abdurrahman Dia.
Suella Braverman, 42 ans, a expliqué avoir démissionné pour avoir utilisé son email personnel pour l'envoi de documents officiels, enfreignant le code ministériel. Elle a exprimé ses graves inquiétudes sur la politique du gouvernement qui, selon elle, renonce à ses promesses, notamment sur le dossier migratoire. Elle a été remplacée par Grant Shapps, ministre des Transports sous Boris Johnson. M. Shapps avait soutenu son ancien adversaire dans la course au pouvoir. Contesté au sein de sa propre majorité, seul un Britannique sur 10 a une opinion favorable sur Liz Truss, selon un sondage YouGov. Elle s'est montrée très combative hier lors du rendez-vous hebdomadaire des questions au Parlement, défendant sa politique face aux appels à la démission de l'opposition travailliste. Ces changements au ministère de l'Intérieur interviennent moins d'une semaine après que la chef du gouvernement a limogé son ministre des Finances et ami proche Kwasi Kwarteng. Tout ceci dans un contexte social difficile. L'inflation a atteint 10,1% en septembre, un record en 40 ans.
Le président Joe Biden, qui souhaite faire baisser le prix de l'essence, a appelé mercredi les entreprises américaines à augmenter leur production de pétrole sur le sol américain. Eric Madirakidza.
Les États-Unis doivent augmenter de façon raisonnable la production américaine de pétrole, a déclaré le président depuis la Maison-Blanche après avoir confirmé que les États-Unis vont continuer de puiser dans leurs réserves stratégiques pour stabiliser les prix. Cette hausse de la production intérieure doit s'opérer sans retarder notre transition vers les énergies propres, a toutefois souhaité le président. M. Biden a par ailleurs réitéré ses critiques visant certains acteurs industriels de la filière des hydrocarbures. Et les marges des distributeurs dépassent de plus de 40% la norme, a-t-il dit. Le président américain prévoit aussi de mettre en place un mécanisme de nature à reconstituer à long terme les réserves stratégiques. Le gouvernement américain se mettra à racheter du brut lorsque le cours du WTI descendra dans une fourchette comprise entre 67 et 72 dollars.
L'Ukraine se prépare ce jeudi à restreindre sa consommation d'énergie pour faire face à la destruction de ses infrastructures par l'armée russe à l'approche de l'hiver. Le président Volodymyr Zelensky appelant la population à se préparer à tous les scénarios possibles. Alors que les bombardements ont continué mercredi partout en Ukraine, y compris dans la capitale Kiev, Kiev a accusé la Russie de préparer une déportation massive de la population des territoires récemment annexés et l'enrôlement de forces de citoyens ukrainiens dans son armée. La Minute Éco, Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts a recouvré 792,4 milliards de francs CFA au troisième trimestre 2022 pour un objectif de 851,5 milliards de francs CFA, a indiqué le directeur général des impôts, Sié Abou Ouattara. Les recettes attendues au quatrième trimestre s'établissent à 729,4 milliards de francs CFA, en hausse de plus de 9% par rapport au dernier trimestre 2021. Le Mali, dans le cadre de sa stratégie de financement budgétaire, a levé hier mercredi sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine 44 milliards de francs CFA au terme de son émission d'adjudication de bons assimilables du Trésor de maturité 182 jours et d'obligations de relance de maturité 5 et 7 ans. L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 40 milliards de francs CFA. La fintech de mobilité nigériane Move, partenaire d'Uber, affirme avoir levé 15 millions de livres sterling de financement auprès d'EMSO Asset Management pour développer ses opérations lancées en août dernier au Royaume-Uni. Move donne accès à des véhicules neufs zéro émission. Londres est le leader mondial des efforts d'électrification d'Uber avec plus de 7000 véhicules électriques, le plus grand nombre de toutes les villes où Uber.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Nous parlons aujourd'hui de football féminin en Sierra Leone.
Oui, la première ligue professionnelle de football féminin a débuté en Sierra Leone avec un match inaugural dans la ville de Makeni, dans le nord du pays. Il s'est disputé entre les Mena Queens et les Kaoula Queens. Ce match a donné le coup d'envoi d'une saison de 6 mois au cours de laquelle 12 clubs de tout le pays s'affronteront. Suivez. Ambiance bon enfant pour ces footballeuses sierra-léonaises qui se sont parées de leur meilleure tenue sportive pour un événement tout aussi inédit. C'est la première fois que le pays connaît un championnat féminin de football et les fans du ballon rond sont au rendez-vous.
Nous sommes des supporters de Kaoula. Nous sommes venus soutenir nos sœurs pour remporter la première ligue féminine. Depuis et pour toujours dans l'histoire de la Sierra Leone, nous assistons à la première ligue féminine et nous espérons partir d'ici avec la victoire.
Cette première saison regroupe 12 clubs qui doivent convaincre les autorités qu'elles ont eu raison d'instaurer un tel championnat féminin. Ces clubs vont s'affronter jusqu'en avril 2023 pour une somme dont le montant n'a pas été précisé et un trophée. Ibrahim Nielenke, ministre des Sports de la Sierra Leone.
Je suis honoré. Vous savez que c'est une grande chance pour moi d'être ici, car je crois que c'est grâce à ma propre détermination que des activités aussi uniques ont lieu. Je suis donc très heureux et très fier, très impressionné.
Le match inaugural met aux prises au stade de Makeni une équipe de cette ville appelée Mena Queens et une autre de la localité de Kenema dénommée Kaoula Queens. Le coup d'envoi est donné par la première dame de Sierra Leone, Fatima Bio, en présence du président Julius Mada Bio. Les défis sont collectifs pour les équipes, mais aussi individuels. Mariatou Conté, capitaine des Mena Queens.
Mon père m'a toujours dit, ce que les hommes peuvent faire, les femmes ne le peuvent pas. Et je veux mener cette bataille. Je suis en train de la mener pour montrer à mon père, pour lui prouver que ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent le faire beaucoup mieux.
Fodé Kourouma, entraîneur des Mena Queens.
Cette fois-ci, nous savons que c'est une compétition que nous allons jouer et une très bonne compétition. Les filles sont très bien préparées.
Pour ce match inaugural, les nombreux fans en ont eu plein les yeux Les supporters espèrent que cette compétition va relancer l'équipe nationale qui n'a pas pu se qualifier pour la CAN féminine disputée cette année au Maroc.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le mouvement rebelle M23 réitère son appel au dialogue avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les rebelles qui contrôlent la ville de Bounagana, dans le nord-est du pays, affirment que les zones sous leur contrôle sont sécurisées et appellent ceux qui se sont réfugiés en Ouganda à rentrer chez eux. Les rebelles se disent prêts à défendre la ville de Bounagana si les forces gouvernementales, les FARDC, tentent de la reprendre. Venuste Chimiimana a joint le porte-parole politique adjoint du M23, Mounia Rugero Karemera Canisius.
Quand les FARDC continuent à chanter qu'ils vont nous déguerpir de Bounagana, je vous apprends premièrement que d'abord, les M23 n'avaient pas l'intention de récupérer Bounagana. Mais c'est quand ils ont osé de venir nous attaquer dans nos positions de Chanzo-Unioni, où les M23 a pris l'offensive de les faire descendre jusqu'à Kabinki. Mais sinon, je vous apprends que la partie, l'espace qui est contrôlé par les M23 est à la sécurité totale.
Et l'armée congolaise n'a toujours pas renoncé à reprendre la ville de Bounagana. Êtes-vous préparé à cette éventualité?
Oui, s'il vous plaît, si l'armée, les FARDC menacent de nous attaquer à Bounagana, je pense qu'ils n'ont pas cette capacité. Ils n'ont que la capacité de piller, de voler, de violer et tout console.
Il y a aussi l'imminence du déploiement des troupes de la communauté est-africaine.
Monsieur le journaliste, quand on parle de déploiement de la force intercommunautaire de l'ASC, ça c'est une organisation des pays qui se sont mis ensemble de l'East African Community. Ça, nous ne faisons qu'attendre.
Mais vous savez qu'ils viennent pour sécuriser la région.
Nous attendons leur décision.
Et s'ils viennent vous attaquer?
S'ils viennent nous attaquer, c'est le Seigneur qui connaît avec le général Makenga.
Maintenant, où en êtes-vous avec le dialogue qui s'était amorcé avec le gouvernement de Kinshasa?
Nous l'avons toujours demandé. Nous l'avons toujours sollicité auprès des organisations régionales et africaines. Quand on parle de AIAC, SADC, CIRGER, ainsi que l'Union africaine, nous leur demandons toujours de nous appuyer en faisant comprendre le gouvernement de Kinshasa afin d'accepter les négociations pour que nous puissions chercher la paix durable de notre population.
Et la MONUSCO dans tout cela, êtes-vous favorable à ces efforts de maintien de la paix ou la considérez-vous toujours comme une force alliée au FARDC?
La MONUSCO connaît notre armée très bien. Et d'ailleurs, le secrétaire général l'a dit la fois passée, vous l'avez suivi, je pense. Ils connaissent notre discipline, ils connaissent que nous avons une armée ordonnée, une armée bien formée et une armée disciplinée. Et c'est pourquoi ils ont trouvé aussi la différence entre les M23, l'armée révolutionnaire congolaise et la FARDC. Il y a une grande différence.
Entre-temps, les autorités congolaises continuent de clamer au effort que vous êtes soutenu par le Rwanda et exigent votre retrait de la ville de Bounagana.
Chanzo, c'était une partie du groupement de Jomba, territoire de Rutshuru. Réunion est la même chose là où nous étions. N'est-ce pas vrai? Où est la différence entre Bounagana et Réunion et Chanzo? S'il veut que nous puissions rentrer à Chanzo à Réunion, pourquoi pas Bounagana? Partout c'est chez nous.
Le porte-parole adjoint du M23, Mounia Rugero Karemera Canisius.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Plus de 50 000 réfugiés burundais sont encore en Ouganda, dont environ 40 000 dans le camp de Nakivale. L'organisation Light for All, qui soutient la scolarisation des enfants depuis 2017 dans ce camp, a étendu son champ d'action aux femmes victimes de violences sexuelles. Elle les accompagne dans des projets d'autonomisation et mobilise des fonds pour permettre aux réfugiés d'exploiter des terres mises à leur disposition par les autorités ougandaises. Nathalie Barge, adjointe à Kampala, la directrice de cette organisation, Chantal Muta-Muriza.
On s'est rendu compte qu'il y avait des cas de victimes de violences sexuelles qui n'ont jamais eu de soutien. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a produit un documentaire où on a interrogé 6 femmes qui ont donné des témoignages. On vient de faire d'ailleurs une étude globale de 4 camps de réfugiés, y compris celui de l'Ouganda, celui du Rwanda et de camps de la Tanzanie. On a interrogé quelques victimes, au moins 100, pour qu'elles puissent raconter leurs histoires. Et donc, en Ouganda, nous sommes en train d'apporter de l'appui psychosocial à quelques victimes de violences sexuelles. Et en même temps, on essaye de leur donner des moyens de pouvoir se prendre en charge. C'est-à-dire qu'on a lancé des projets d'autonomisation.
Quel type d'activité vous proposez, notamment aux femmes, avec des microcrédits?
Pour le camp de réfugiés de Naki Valley, on leur donne la chance de proposer ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, à Naki Valley, ils ont commencé un projet de poulailler, donc élevage de poules. C'est ça le projet qui est en cours. Puis aussi, on leur a donné un générateur pour pouvoir commencer des projets d'agriculture, pour arroser en fait dans les champs, comme c'est un endroit qui est assez sec. Donc, on leur soutient dans ces petits projets comme ça.
Vous venez de parler d'agriculture. Oui. On sait que ce sont des réfugiés burundais qui sont sur le territoire ougandais. Est-ce que cela veut dire qu'ils ont droit à certaines terres dans le pays?
Oui. Alors, la particularité de l'Ouganda, c'est un pays quand même qui est assez accueillant. En Ouganda, quand un réfugié arrive, on lui donne un lotin de terre. La personne peut choisir de cultiver ses terres ou alors de construire une maison si la personne en a les moyens. Mais sinon, il y a moyen pour les réfugiés de louer des terres et puis de cultiver.
Vous essayez d'une certaine manière de leur donner plus de moyens pour qu'ils puissent exploiter ces terres et les rendre rentables.
Exactement. On est en train de mobiliser les moyens pour justement donner aux réfugiés les intrants, les ressources, la technologie qu'il faut pour pouvoir justement utiliser ces terres. Je peux vous dire que par exemple, un réfugié dans le camp de réfugiés de Naki Valley se trouve les Burundais, la majorité des Burundais et des Congolais aussi. On leur donne 13 000 shillings ougandais, ça c'est l'équivalent de 3 dollars par mois. C'est impossible de vivre avec ça.
Chantal Muta-Muriza, directrice de Light for All, jointe à Kampala. La plus haute juridiction du Canada examine la possibilité d'annuler un accord sur l'immigration conclu il y a près de 20 ans avec les États-Unis à la suite d'allégations faisant état de demandeurs d'asile qui ne peuvent être renvoyés en toute sécurité chez le voisin américain. Craig McCullough rapporte que cette affaire judiciaire intervient alors que le nombre de demandeurs d'asile traversant la frontière a atteint son plus haut niveau depuis 6 ans. Récit de Eric Manirakidza.
La Cour suprême du Canada a récemment entendu les arguments visant à invalider l'entente canado-américaine sur les tiers pays sûrs. Signée à la fin de 2002 et en vigueur depuis décembre 2004, l'entente entre les États-Unis et le Canada permet de refouler les voyageurs qui se trouvent à des points de passage terrestre illégaux et qui demandent le statut de réfugié dans un pays après avoir été dans l'autre. Les partisans de l'abolition de cet accord affirment qu'il violent les droits constitutionnels du Canada à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, en forçant les demandeurs d'asile à retourner dans des conditions déplorables dans les centres de détention pour immigrants aux États-Unis. Ils affirment que cette mesure pourrait également entraîner le renvoi de migrants dans des pays où ils pourraient être persécutés. Janet Dench, directrice générale du Conseil canadien pour les réfugiés, affirme que l'accord doit être abrogé en raison des conditions inadmissibles que les migrants endurent lorsqu'ils sont renvoyés aux États-Unis.
Ce que les preuves montrent et ce que nous entendons des personnes qui en ont fait l'expérience, ainsi que des enquêtes indépendantes sur les situations, c'est qu'il s'agit vraiment de conditions de détention très abusives où les gens passent de longues périodes dans des conditions vraiment atroces.
Sollicité pour un commentaire, un porte-parole de l'Agence américaine pour l'immigration et les douanes a déclaré à VOA que l'agence s'engage fermement à assurer la santé et le bien-être de tous ceux qui sont sous sa garde. Dans une déclaration envoyée par courriel, le porte-parole a déclaré que toutes les personnes placées sous la garde de l'ICE font l'objet d'un examen médical, dentaire et de santé mentale dans les 12 heures suivant leur arrivée dans chaque centre de détention et que l'ICE dépense chaque année plus de 315 millions de dollars pour l'ensemble des services de santé fournis aux personnes placées sous sa garde. Richard Corland, avocat spécialisé dans l'immigration et analyste politique basé à Vancouver, estime que le Canada devrait mettre fin à l'accord, mais pas sans le remplacer.
Cela a été causé par l'idée que des personnes entrées au Canada après un refus dans leur demande de statut de réfugié aux États-Unis et qu'elles escroquaient le Canada pour obtenir des fonds publics. Le public n'aimait pas cela. La solution politique était de discuter de l'entente sur les tiers pays sûrs.
Les avocats du gouvernement canadien ont demandé à la Cour suprême de suspendre pendant un an tout jugement invalidant l'accord afin de pouvoir formuler une réponse. La Gendarmerie royale du Canada a arrêté 23 348 demandeurs d'asile au cours des 8 premiers mois de cette année. C'est 13% de plus que pour toute l'année 2017, lorsque ces traversées ont commencé à être comptabilisées. Depuis février 2017, 67 805 demandes d'asile ont été faites par des personnes traversant entre les postes frontaliers. Il y a eu 28 332 demandes acceptées et 19 646 rejetées.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
De plus en plus, les gens installent des sonnettes vidéo et des caméras de surveillance dans et autour de leur maison pour se protéger contre les intrus indésirables, alors que de nombreux consommateurs estiment que ces appareils offrent une certaine tranquillité d'esprit, certains observateurs craignent que les images capturées ne soient préjudiciables aux personnes qui y apparaissent. Reportage de Julie Tabo avec le récit d'Abdourahman Dia.
Plus tôt cette année, Kennedy Nash, 6 ans, vidait la poubelle devant chez elle lorsqu'un inconnu l'a attrapée et a essayé de l'enlever. Elle a réussi à se libérer. Sa mère, Mandy Miller Nash, s'est confiée à la VOA.
Elle arrive dans la maison en courant et en criant. Alors je savais que quelque chose n'allait pas. Elle a dit quelqu'un a essayé de m'enlever, quelqu'un a essayé de me kidnapper.
L'incident a été enregistré par la caméra vidéo de la sonnette de la famille qu'ils ont fournie à la police comme preuve, ce qui a aidé à faire condamner l'homme.
Je suis tellement reconnaissante envers Ring. En gros, c'était le témoin. Si nous n'avions pas eu de vidéo de cet incident, pensez-vous que quelqu'un nous aurait cru?
Les sonnettes vidéo sont devenues populaires aux États-Unis. Les appareils enregistrent non seulement les crimes, mais jouent également un rôle clé dans leur dissuasion. Certaines caméras de détection de mouvement peuvent allumer des projecteurs et envoyer une notification au propriétaire qui peut activer une sirène. Ils peuvent également activer des avertissements qui informent les intrus qu'ils sont enregistrés. Et certains appareils permettent aux consommateurs de parler aux intrus en temps réel depuis leur téléphone portable, même loin de chez eux. Josh Roth est le directeur de la technologie chez Ring, la société de sécurité domestique appartenant à Amazon. Mais alors que de plus en plus de personnes se tournent vers les appareils de surveillance, certains observateurs préviennent que la technologie et la publication des vidéos de personnes sur Internet peuvent perpétuer les stéréotypes raciaux. Nicole Turnolly, chercheuse principale à la Brookings Institution.
Cela fait ressortir ces hypothèses historiques qui suggèrent que je ne m'attends pas à ce que vous soyez chez moi à 2 heures du matin, mais vraiment, je ne m'attends pas non plus à ce que vous soyez chez moi à 10 heures. Et donc, je vais donner l'alerte et j'ai l'impression que tu ne ressembles pas au voisin normal que j'ai.
Mais alors que de plus en plus de personnes se tournent vers les appareils de surveillance, certains observateurs préviennent que la technologie et la publication des vidéos de personnes sur Internet peuvent perpétuer les stéréotypes raciaux.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sebudia, à la mise en onde de Lionel Runanira Gaïma, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.